Bonjour à tous et bienvenue à la dernière émission de cette année 2016. Pour le dernier comité de lecture de l'année 2016, nous avons invité Sylvain Patieux pour l'ensemble de son œuvre. C'est un auteur que nous connaissions déjà pour l'avoir reçu aux apéros littéraires des correspondances 2016 pour son livre « Et que celui qui a soif vienne », un roman de pirate paru dans la collection « La Brune Norwergue ».
Sylvain Patieux est professeur d'histoire à l'Université de Paris 8 et il est spécialiste de l'histoire sociale au XXe siècle. En fait, toute son œuvre, comme nous allons vous le montrer, est une observation de la société en lutte. Alors, une lutte qui peut être individuelle pour un destin meilleur ou collective, là, pour un avenir collectif meilleur.
Alors, Sylvain Patieux publie de nombreux articles dans des revues spécialisées et dans des quotidiens. Et il est également l'auteur de plusieurs essais.
Son premier essai, Tourisme et travail, paru aux presses de Sciences Po en 2009, qui est aussi en fait l'objet de sa thèse, a pour propos le tourisme social et le début de ce tourisme social.
Dans le second essai, Les camarades des frères, qu'il a publié en 2002, il traite des trotskistes et libertaires dans la guerre d'Algérie.
Avant de disparaître, aux éditions Plein Jour en 2013, est un récit sur les mouvements sociaux suite à l'annonce de la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois.
Mais Sylvain n'est pas que auteur d'essais et historien, il est aussi romancier, car depuis 2012, il a publié 4 romans dont nous allons vous parler plus amplement, puisque c'est pour ça qu'il est venu à la médiathèque. Donc le premier roman s'intitule « Des impatientes ». Il est publié au Rouergue et c'est un roman sur le destin de 2 jeunes filles africaines.
Dans la première partie de ce livre, on est dans un lycée difficile de banlieue parisienne. Alors dans ce lycée, il y a la salle des profs, il y a les classes, il y a les couloirs. Et nous allons vous présenter plus précisément qu'est-ce que c'est que ce lycée dans cette banlieue. Sylvain nous propose une analyse sociologique et historique, mais très intéressante.
Ça a d'abord été un bon lycée, tout neuf, tout beau, moderne, dans les années 1970, construit pour répondre à la fois à la massification scolaire et à la progression de la banlieue au-delà de la petite couronne, quand on croyait encore que la crise n'allait pas durer, un lycée d'ascension sociale, ceux de la vieille ville, ceux qui s'installent en pavillon, la maison avec jardin, enfin, ou ceux qui arrivent dans un lycée, dans une cité avec salle de bain et eau courante.
Un lycée post-réforme habit, plus de classes de pauvres, de classes de riches, en théorie. Tout le monde dans le même bateau du collège unique. Puis ça s'est un peu dégradé. Ceux de la vieille ville ont mis leurs enfants dans le privé ou dans un lycée parisien à options rares. Quelques-uns des pavillons ont fait de même et ceux des cités sont restés.
Les premiers sont partis. Les 2 dernières catégories se sont développées avec la ville, mais ce n'est pas le pire lycée.
Il a même plutôt bonne réputation sur les forums de profs angoissés par leur mutation, dans les discussions des routards du remplacement ou des vacataires royalement embauchés année après nés par l'éducation nationale.
Dans ce territoire républicain coincé entre d'un côté la 4 voies, de l'autre la 2 voies, sur un autre encore un terrain de foot et enfin la salle polyvalente de la ville et le commissariat, ils sont des centaines à converger chaque matin, rituel inexorable et renouvelé.
Des centaines de têtes, pour beaucoup dûment casquettées et de mauvais gré décasquettées avant d'entrer.
Pour souvent tenter aussitôt de se recasqueter en échappant pour quelques instants volés au regard vigilant du CPE.
Des garçons en survêtement.
D'autres en baguilles trop larges laissant voir leurs caleçons.
Des filles en survêt aussi.
En jean. Et pour les plus téméraires, en jupe.
Quelques voiles ôtées à l'entrée.
Des milliers de pieds dans des baskets.
Les mieux, c'est les requins.
Ou dans des ballerines identiques achetées chez le chinois.
Des chaussures à talons hauts vernis qu'on se demande comment elles marchent.
Des tongs quand il fait chaud.
Et des bottes quand il fait froid.
Des centaines d'enfants de pavillons et de bars, enfants immigrés de la première, de la deuxième ou de la troisième génération, dont les parents ou les grands-parents sont venus d'Algérie.
du Sénégal,
du Portugal,
d'Espagne,
de Pologne,
du Mali,
de Côte d'Ivoire,
d'Inde,
du Pakistan,
du Vietnam,
du Sri Lanka,
du Burkina Faso,
de Turquie ou du Kurdistan,
du Rwanda,
de Centrafrique,
de Chine,
du Laos,
d'Italie,
du Bénin,
du Cameroun,
du Maroc,
du Tunisie,
d'Haïti,
de Serbie,
de Bosnie,
du Kosovo,
d'Argentine ou du Brésil,
de Bretagne,
de Corse,
du Limousin,
du Nord,
de Normandie
ou des Antilles.
Plus quelques individus et nationalités égarés et solitaires dans cette tour de Babel multicolore.
Ça promet des débats et des vannes enflammées lors des Coupes du Monde ou de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu la teneur, le lycée vu par Sylvain Patieu.
Oui. Voilà, mais dans ce lycée, il va s'attacher plus particulièrement à la destinée de deux élèves. Halima, la bonne élève sérieuse qui veut entrer à Sciences Po et qui va voir ses projets chavirer à cause d'un incident provoqué par...
Bintou, la rebelle, l'écorchée vive, celle qui perturbe les cours. Donc nous allons vous lire des extraits présentant Halima et Bintou. On va commencer par Halima.
Halima, moi, j'avais tout misé sur l'école. Et le jour où j'ai dû la quitter, ça m'a fait bizarre.
Je dis bizarre, mais le vrai mot, c'est que ça m'a fait mal. Très mal.
Peut-être que la Halima de 40 ans, quand elle repensera à celle de 17, elle trouvera tout ça un peu dérisoire, un peu ridicule.
J'espère.
Ça voudra dire que j'ai réussi à faire quelque chose et à devenir quelqu'un. Et que ce qui me fait mal en ce moment m'apparaîtra comme des petites misères.
Je me rappelle Madame Lefebvre, ma prof de français de première. Elle disait de mettre des mots sur nos sentiments quand on commentait un poème ou un texte. Alors, c'est ce que j'essaye de faire, mais pas sur un roman, sur ma propre histoire.
C'est grâce à elle que j'ai eu 15 au bac français en première. Pourtant, j'étais en S. C'était pas gagné d'avance d'arriver à faire S, d'être bonne en français en s'appelant Halima Nadine Sissoko, fille d'Omar Touré et de Madeleine Sissoko. Zéro année d'études à eux deux, je pense.
Surtout quand on vit seul avec sa maman et son petit frère. Le papa partit un jour quand on était petite pour ne plus jamais réapparaître. Mais maman, elle m'a toujours poussée. Elle a toujours su que l'école, c'était important.
De toute façon, ça me plaisait. Depuis toute petite, j'ai aimé les études. Je me rappelle la première fois que j'ai lu un livre, je me suis dit que je pourrais plus m'arrêter.
J'aimais tellement ça qu'on me raconte des histoires.
J'ai commencé à avoir des bonnes notes à l'école, j'étais la première, des notes meilleures que d'autres enfants dont les parents avaient plus d'argent, de meilleures situations que ma mère.
Il fallait voir comme elle était fière la première fois que je lui ai ramené un bon bulletin de notes. J'étais la première, c'était en CP, mais je me souviens de la lueur dans ses yeux.
Ma mère, c'était pas du genre à se vanter. Mais là, elle en a parlé aux voisines. Elle leur disait « Ma fille, c'est la première de sa classe. Moi, j'ai pas fait d'études, mais vous verrez. Elle sera quelqu'un. »
Moi aussi, je voulais devenir quelqu'un. Avocate, journaliste, médecin ou prof. Voilà pour Halima, la bonne élève. Et maintenant, voyons qui est Bintou. La pute, la salope. J'y en ai vraiment voulu, d'ailleurs. J'avoue, je la recroise, je la plombe, je crois. Pourtant, il faut y aller tous les matins dans ce lycée de merde. Ça me fait vraiment chier. Je restais le plus possible au lit. Toutes les 5 minutes, je remettais repeat sur mon portable et je m'enterrais sous la couette. Ensuite, il fallait courir, sauter sous la douche, choisir les fringues, se maquiller, s'il te plaît. Et j'avais pas le temps pour le petit-déj, de toute façon, ça sert à rien. Je prenais des mars et je les bouffais dans le cours ou en bus.
Alors avec tout ça, si j'oubliais souvent mes livres, c'est pas ma faute. Ils croient quoi, les profs? J'étais souvent en retard. Fallait voir le CPE pour entrer. C'est la haine. Déjà, je me lève et en plus, ils m'empêchent d'aller en cours pour 5 minutes. Alors quoi? J'avais toujours une disquette à leur raconter. Mon petit frère amené à l'école, ma mère malade, j'ai vomi ce matin ou alors j'ai raté le bus. Mais au bout de presque 4 ans là-bas, 2 secondes, une première, et là, la terminale, ça passait plus.
Enfin, ça dépendait du surveillant. Quand c'était Rachid ou Latifa, il me faisait Momo, s'il te plaît, pour entrer en cours. Et alors là, le prof, il pouvait m'accepter ou pas, et ces connards, ils me faisaient souvent chier.
Madame Charlier, elle, voulait que je sorte mes cahiers. Mais j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il croit, moi? J'ai pas un cartable, j'ai un sac à main, je suis pas une clocharde, je pouvais pas y mettre un cahier ou un livre. Dedans, ça te déforme.
J'ai pas choisi d'y aller dans cette classe pourrie, dans ce lycée pourri. Les profs là, ils m'aimaient pas, c'est sûr. Ils pouvaient parler, je m'en battais les couilles.
Alors, dans la deuxième partie du roman, nous allons retrouver nos deux héroïnes. caissière dans un magasin d'ameublement et de décoration de la capitale. Ça pourrait être Habitat. Et donc, c'est vraiment après l'école, c'est le monde du travail.
Ouais, c'est l'ambiance branchée d'une boutique urbaine.
C'est un tout autre univers que le lycée dans lequel sont entrés Bitou Massinka et Halima Nadine Sissoko, un beau jour de fin d'hiver, par la grâce de l'assistante sociale de l'établissement, le monde de Décora. Et dans ce monde du travail, eh bien en fait, les employés doivent se montrer enthousiastes, malgré des statuts précaires et des situations difficiles, temps partiel, horaire tardif, éloignement du domicile, garde d'enfants. Mais surtout, ils doivent respecter un règlement vraiment particulier, très particulier.
Premier principe, tenue et attitude.
Tenue.
Je porte la tenue et le badge Décora.
Je soigne ma tenue propre et repassée.
Mes chaussures sont propres et cirées.
Évidemment, je suis propre sur moi.
Je suis un homme, mes cheveux sont attachés.
Attitude.
Je me tiens droit, les bras le long du corps.
J'ai une attitude ouverte et naturelle qui invite à la communication.
Je ne mâche pas de chewing-gum, je ne bois pas et ne mange pas à mon poste. Trois règles.
Première règle, la présence active à mon poste.
Deuxième règle, j'adopte l'attitude...
Tour de contrôle.
Je maîtrise...
L'atterrissage.
L'arrivée.
Le décollage.
Le départ.
Ainsi que le vol de mes clients.
Troisième règle, je vais au contact des clients.
Tenue, enthousiasme, bonjour.
Je regarde le client en face.
Je fais preuve d'assurance.
En fin de contact, je remercie mon client, quelle que soit sa décision.
Achat, non-achat. Je sais dire « Bonjour madame ».
Le saviez-vous, « bonjour » signifie « que cette journée soit bonne ».
Chez Décora, dire « bonjour » à un client signifie « je vous souhaite un séjour agréable entre magasins et je souhaite que vous trouviez ce que vous cherchez ».
Le regard et le ton de ma voix sont déterminants.
Je regarde mon client.
J'utilise un ton franc.
Je suis gaie et enthousiaste.
J'adapte le volume de ma voix.
Halima et Bintou vont vite révolutionner ce petit monde avec leur jeunesse et leur fougue.
Et à la suite de plusieurs situations injustes, elles vont même organiser une grève. Donc là, on ne vous en dira pas plus, il faudrait lire le livre. Nous vous rappelons qu'il s'agit des Impatientes de Sylvain Patieu, paru aux éditions du Rouergue en 2012. Le bonheur pauvre rengaine est donc le deuxième roman de Sylvain Patieu, paru à la Brunner Rouergue en 2013. Et c'est un roman sur l'assassinat en 1920 d'une jeune prostituée à Marseille. Ce fait divers nous plonge dans la société des années pré- et post-Première Guerre mondiale, où certains ont profité de la situation troublée pour s'enrichir et où d'autres ont quitté leur vie d'ouvrier pour le monde de la prostitution. Là encore, deux parties composent le livre. Dans la première, nous suivons les quatre protagonistes de l'affaire, deux prostituées et deux souteneurs, en banlieue parisienne, à Lyon et à Marseille. La deuxième partie est consacrée à l'enquête avec des dépositions, des photos, des procès-verbaux, tous collectés par l'auteur aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Donc, nous avons choisi de vous lire un passage
qui présente Yvonne, une des jeunes prostituées, qui va enfin découvrir Marseille. la beauté de Marseille. Et en même temps qu'elle découvre la beauté de Marseille, elle espère qu'elle va avoir une vie meilleure.
Quand elle a regardé pour la première fois la ville, pour la première fois vraiment dans sa totalité, de la Pointe Rouge à la Joliette, habitation,
colline,
mer,
île,
mêlée dans ses yeux, tout ça depuis la bonne mère où l'avait emmenée Yvette, après lui en avoir tant parlé, alors à ce moment-là, elle n'a pas pensé à la guerre, tout juste achevée. Elle n'a pas pensé aux morts à peine enterrés, les siens si semblables à ceux de tout le monde. Elle n'a pas pensé à son père ni à sa belle-mère. Elle n'a pas pensé aux clients, certains beaux, d'autres écœurants. Elle n'a pas pensé à Fred Val qu'elle venait de rencontrer et qu'elle aimait déjà.
Elle a eu le souffle coupé et une bouffée de bonheur comme jamais. Touchée par une beauté inédite pour elle, par un ciel bleu à inspirer les peintres, elle voyait la vaste étendue du ciel et de la mer. Elle voyait le blanc de la roche, des façades, des vagues, les yeux mi-clos, éblouis, éperdus, elle pensait contempler sa liberté. À demi aveuglée par l'espoir, si elle s'était retournée pourtant, elle aurait pu regarder de l'autre côté, déceler les massifs qui barraient l'horizon, chaîne de l'Estac, de l'Étoile et de Saint-Cyr, mont du Garlaban, Puget et Marseille Vert, enserrant la ville dans un amphithéâtre de tragédie. Elle aurait pu sentir la menace. Marseille, pour elle, une terre promise, une terre d'exil, comme pour tant d'autres, réfugiés, chassés par la guerre, immigrés, venus des îles, Corse ou Antilles, d'Afrique du Nord ou de l'Ouest, d'Espagne ou d'Italie, marins échoués, dockers, soldats, aventuriers, terre d'exil et d'espoir, depuis les origines, on pourrait dire, depuis ces Grecs arrivés en navire, séduits par ces falaises éclatantes qui leur rappelaient le pays. Chassés de fossés par on ne sait quelle rivalité politique, guerre de factions, bannissement ou par l'avancée des Perses, une histoire de violence déjà, de rapports de force, empire contre empire, clan contre clan. Tout est dit, fort contre faible, colon contre indigène, riche contre miséreux, homme contre femme, malédiction sans cesse répétée et éprouvée.
Ici comme ailleurs.
Depuis Notre-Dame, elle voyait la rue de la République, là où elle allait vivre avec Simone, l'ancienne rue impériale sous Napoléon III, versant urbain du lyrisme colonial de la grandiloquente porte vers l'Orient.
Ouvrier mis en branle pour creuser cette saignée rectiligne, du vieux port à la Joliette, port commercial où s'activaient d'autres ouvriers encore, pour vider les bateaux des marchandises d'outre-mer, pour les remplir de produits nouveaux faits par ceux de usines.
Ère industrielle,
aile coloniale,
sueur et sang,
troupes fraîches débarquées après 1914 pour remplir les tranchées,
les usines,
les chantiers,
tirailleurs exotiques,
russes indisciplinés,
indiens en turban,
travailleurs arabes,
noirs ou anamites,
marins britanniques et américains,
pompons rouges,
uniformes,
bleus de travail,
des cocottes aussi,
pour le repos du guerrier. Du haut de Notre-Dame de la Garde, elle surplombait pour une fois. Sentiment de beauté, sentiment de fierté d'aller habiter là-bas, dans cette rue de la République, large voie, grands immeubles, moitié bourgeoise,
moitié canaille. Pourtant si proche des vieux quartiers, si dense, où elle aurait pu terminer, corps fatigué,
rompu,
brisé.
Dans ce quartier réservé à la prostitution.
Fille à soldat,
fille à marin,
fille à soudard,
sexe vénal,
ripaille,
plaisir multiple,
alcool,
coup,
exutoire.
À la place, un appartement bourgeois avec Simone, à deux pas du vieux port, à deux pas de la Canebière et de la rue Saint-Ferréol, pas très loin de la gare Saint-Charles et de la rue de Rome.
Très chic. 19 rue de la République.
Une demi-mondaine de rue.
Entre deux mondes.
Ni complètement pute.
Ni complètement bourgeoise.
Ligne de faille entre le sordide et le clinquant.
Immeuble haussmannien et monde populaire.
Émerveillée, elle ne savait pas à quel point son temps était compté.
Elle ne savait pas que le beau rêve était un tombeau.
Elle ne connaissait pas la date fatale, le 25 septembre 1920 au petit matin.
L'affaire de l'athlète est née pointue pour les journalistes.
Le mistral soufflait sur la colline qui dominait Marseille. Elle se tenait les cheveux, le soleil sur le visage, une sensation chaude malgré le vent. Elle souriait, les pieds bien campés dans le sol.
Elle a échappé à la force, à la violence, à la mort, au destin, pour un instant, au pied de la bonne mère. Elle est passée dans le bon camp, la Vierge dorée au sommet du clocher, à un air de Niké, la victoire.
J'aime à y croire à ce répit, à ce petit morceau de temps suspendu.
J'aime à l'imaginer, même si je sais ce qui est arrivé.
Elle a vraiment existé, Yvonne Schmitt.
Fantôme dans un carton d'archives. Nous vous avons donc présenté Le Bonheur pauvre rengaine, ce beau roman qui se situe donc à Marseille, entre autres. Nous allons maintenant vous parler de Beauté Parade, le troisième roman de Sylvain Patieu, paru chez Plein Jour en 2015. C'est un récit sur la mobilisation de salariés illégaux et immigrés. Nous sommes en 2014 dans un salon de beauté et de coiffure parisien occupé par des femmes qui veulent être payées et régularisées. Les manucures du rez-de-chaussée viennent de Chine et les coiffeuses du premier étage d'Afrique de l'Ouest. Le patron africain s'est enfui avec la caisse. Elles sont soutenues par un collectif mené par la CGT.
Ce qui est remarquable dans ce livre, c'est que l'auteur ne parle pas que d'actions sociales et politiques. Il nous dit aussi tout sur le rapport à la beauté, sur le commerce des cheveux, sur l'art de la manucure, sur l'économie de la Côte d'Ivoire, le cacao et Drogba, avec humour et empathie.
Et il glisse aussi quelques considérations personnelles qui ajoutent à l'universalité du propos. Nous avons choisi de vous lire un passage qui va nous présenter la boutique donc de beauté, le salon de beauté, dans son quartier, le 10e arrondissement.
Au 50 boulevard de Strasbourg, la boutique est en grève. J'y vais plusieurs fois par semaine en marchant d'un pas décidé. Banderole en chinois,
en français,
accroché dans la rue,
un dessin de Tardy,
un slogan,
meilleur salaire,
meilleures conditions de travail,
respect des travailleurs,
en France comme en Chine,
des photos de beaux gosses,
de belles gosses en devanture,
et des tracts de la CGT.
Sur la vitrine, il est écrit
« Salon ouvert aux clients du lundi au samedi, fermé aux clients le dimanche, ouvert au soutien 7 jours sur 7.
Ici, on s'oppose au travail le dimanche. » À deux pas du salon, des Africaines, terme vague pour désigner les femmes noires originaires de l'Ouest, du continent, sans plus de précision de nationalité.
Vague, comme on dirait européenne en mélangeant torchon danois et serviette espagnole.
À deux pas, donc, ces femmes vendent dans des bassines du bissap ou du gingembre en bouteille fait maison.
À côté, des hommes désignés comme indiens,
plus sûrement pakistanais ou bangladais,
vendent eux aussi dans de grands plateaux creux juchés sur des caddies, cacahuètes,
maïs,
marrons,
selon les saisons.
Moi-même ici, je suis blanc ou français.
C'est tout.
Dans d'autres contextes, pourtant, je suis le Marseillais.
Bien que né à Aix.
Dans cette rue, mon background biographique de métèque provençal est balayé.
De gitan, disaient les infirmières à la maternité.
Histoire maintes fois rapportée par mes parents comme il se doit des légendes de naissance.
Cheveux sombres.
Œil et poils noirs.
Teint mat.
Sourcils rejoints en un seul au-dessus du nez.
Tout ça est ici oublié.
Ma gueule blanchie par comparaison.
En parallèle au boulevard de Strasbourg, la rue du Faubourg Saint-Denis, ses bars PMU transformés en bars branchés.
Juste après, la crèche de mon fils.
Encore un peu plus loin, le quartier turc.
Trois militantes kurdes assassinées une nuit de janvier.
À deux pas, les récollets.
Alban Satrang.
Les squares où dorment la nuit des exilés recroquevillés.
Afghans.
Irakiens.
Éthiopiens.
Groupes d'hommes
Ombre.
La gare du Nord et l'Angleterre en ligne de mire.
Devant les deux gares,
du Nord et de l'Est,
ils font la queue aux soupes populaires.
Avec les autres pauvres.
Parmi eux, des mineurs. Et quand la police les attrape, on mesure les os de leurs poignets pour deviner leur âge.
Les majeurs sont expulsés.
Assez proche aussi, le canal Saint-Martin.
Il y a les fêtards, la nuit, et des associatives solidaires en maraude.
Certains ont appris le farci.
Le jour, ses magasins et ses poussettes.
Les vélos.
Les pique-niques l'été.
Une année, les SDF ont planté leurs tentes.
Il y a une caserne de pompiers.
Les ateliers devenus open space, duplex lumineux.
Les restaurants indiens.
Les boutiques sri-lankaises.
Les collectes pour les tigres.
Les tracts écrits en tamoul.
Le quartier dit indien.
Du moins les rez-de-chaussée et les pas de porte.
Du moins les menus et les trottoirs.
Du moins le défilé pour Ganesh.
De l'autre côté du canal, la place Sainte-Marthe et son air de Marseille, justement.
Habitat social.
Immeuble réhabilité.
Boutique chic ethnique.
Un karaoké chinois rue du Buisson Saint-Louis.
J'y ai fêté le rendu de ma thèse il y a longtemps.
Arrondissement numéro 10 de Paris.
Parcouru dans tous les sens, depuis 11 ans que j'y habite.
Militantisme.
Balade.
Parcours du quotidien.
Devant leurs anciens immeubles, flottent les souvenirs des amis déménagés.
Philippe Evéro, rue du Terrage.
Tristan, rue des Petites Écuries.
Ici, l'endroit où j'ai pris Mathieu et Rolly en voiture un matin pour les emmener à la maternité.
Je l'aime bien, cet arrondissement.
Gentrifié et encore populaire à la fois.
Les très pauvres et les moyens riches.
Misère du monde.
Petites gens.
Profession intellectuelle et supérieure.
Étudiants.
Jeune couple.
Jeune couple avec un enfant.
À deux, on passera en banlieue.
Migrants, célibataires.
Tout n'y est pas encore joué.
Tout n'est pas lisse. Pas homogène.
Melting pot où ça se croise plus que ça se rencontre.
Quartier tressé et natté comme une chevelure, décoré comme un ongle. Tressé, natté, décoré comme un livre.
Microcosme chaotique, petit bout mondialisé où les êtres et les goûts s'entrechoquent.
Dans un salon de beauté, par exemple.
On y revient. 50 boulevard de Strasbourg.
On passe devant les vendeuses de jus de bissap, de jus de gingembre.
Dedans, les grévistes, les clientes, les clients plus rares. Les soutiens, les militants, les curieux, les amis, la famille et même parfois des journalistes qui passent. Ces jeunes femmes, en fait, elles se battent non plus pour avoir un salaire qu'elles risquent pas d'avoir, leur patron est parti, il est parti avec la caisse. Elles se battent maintenant pour avoir, en fait, des papiers, pour être régularisées. Et c'est une lutte dont elles vont sortir victorieuses. Comme Sylvain Patieu le disait lui-même, un livre qui finit bien. Et on suit donc la trajectoire de ces jeunes femmes. Donc, comme on l'a dit, les Africaines s'occupent plutôt de tout ce qui est coiffure, les Asiatiques de tout ce qui est manucure. Eh bien, elles vont faire front ensemble, malgré leurs différences, malgré leur culture, aidées en cela donc par des bons gars de la CGT, comme un Raymond que Sylvain Patieu nous décrit. Et elles vont arriver à leur fin, être régularisées et pouvoir travailler avec des papiers.
Il faut rappeler que c'est une histoire vraie, que c'est vraiment quelque chose qui s'est déroulé en 2014, dans les mêmes lieux exactement. Donc les romans de Sylvain Patieu ne sont pas en fait des romans, c'est plutôt des récits qu'il agrémente en donnant corps au personnage et en mettant beaucoup de lui-même dedans. Et on vous recommande vraiment ces livres qui sont vraiment très attachants. Il a énormément d'empathie pour tous ces personnages et puis c'est extrêmement bien documenté, que ce soit dans Beauté Parade, dans Le Bonheur Pauvre Rengaine, dans Les Impatientes et également dans son quatrième roman.
Alors, son dernier roman, c'est celui pour lequel on en avait déjà parlé ici sur cette radio, c'est celui pour lequel il est venu lors des correspondances, et que celui qui a soif vienne, un roman de pirate. Donc, paru chez Auroergue en 2016 dans la collection La Brune. Il nous emmène en voyage pour suivre le destin croisé des équipages de trois bateaux, un négrier, un bateau de pirate et un navire de marchand.
Alors, à l'occasion d'une révolte et de plusieurs abordages, les pirates vont devenir maîtres de tous les bateaux. Ils vont aider les esclaves à se libérer, parce que les esclaves étaient déjà en révolte sur le bateau de négrier. Et ils vont laisser le choix à ceux qu'ils désirent de les rejoindre. Tous ensemble, ils vont fonder une république sur une île déserte.
Une sorte d'utopie. qui hélas ne va pas durer, mais bon, ça, il faut
lire le roman pour le voir. Et Sylvain Patuet, je crois qu'il s'est amusé en écrivant ce roman-là, parce que il a vraiment voulu faire un roman d'aventure. Mais c'est aussi l'œuvre documentée d'un historien, parce qu'on apprend vraiment plein de choses sur les négriers, sur les bateaux de pirates, même s'il ne donne aucune date, parce qu'il veut faire de ce livre un roman universel.
Et alors, ce qu'il n'hésite pas à faire, c'est comme l'a déjà dit Sylvie, c'est-à-dire à mettre de lui-même ce qu'il avait déjà fait dans ses bouquins, mais peut-être encore plus dans celui-là. Il émaille en fait son récit d'anecdotes personnelles. Et vraiment très personnel, comme la maladie de sa mère, comme la mort de sa maman, enfin vraiment des choses, mais qui en fait, au lieu de perdre le lecteur, rendent le livre encore plus attachant.
Très humain, très très humain. Donc, le titre de ce roman, c'est « Et que celui qui a soif vienne », un roman de pirate. Alors, au cours du comité de lecture de mardi dernier, donc du 20 décembre, Sylvain nous a parlé de son parcours, de ses choix littéraires, de son travail. Et il nous a même fait l'amitié de lire quelques pages de son prochain livre qui sortira en février prochain. Ce livre, c'est l'histoire de pirates de l'air noirs américains dans les années 70. C'est une histoire vraie, hein. Ils ont même détourné un avion pour aller à Miami, je crois.
Pour aller en fait en Algérie, parce qu'ils pensaient que l'Algérie. Voilà, ils partaient de Miami. Et pour aller en Algérie, puisqu'ils pensaient que c'était un pays où il y avait poste, donc indépendance, où il y avait tout à construire et où ce serait un pays où il y aurait le plus de liberté. Mais ils avaient une rançon et les Algériens n'ont pas su trop quoi en faire et finalement ils ont été envoyés en France. Mais la France a refusé de les extrader aux États-Unis où ils auraient eu une peine beaucoup plus lourde. Et finalement, ils vont recommencer leur vie en France et en fait se mettre dans le social, dans la solidarité. Et ils vont faire énormément de bien dans le quartier, je crois, proche de Caen, dans un quartier populaire,
au Havre, je crois.
Et où, en fait, ils vont laisser une trace extrêmement positive.
Oui, oui, donc c'est encore... Et alors, le détournement d'avion s'est fait en famille. Il y avait les enfants qui étaient avec eux. Enfin, c'était quelque chose qui n'était absolument pas violent, mais voilà, c'était quand même un détournement d'avion. Et ben, on a hâte de lire le prochain roman de Sylvain, qui sortira en février. Et voilà, et la séance s'est achevée évidemment autour du verre de l'amitié, au cours duquel Sylvain a dédicacé de nombreux livres, Sylvain Patuet. Donc voilà, c'était une séance très très agréable. Nous vous redonnons rendez-vous l'année prochaine, au prochain comité de lecture donc, qui aura lieu le troisième mardi du mois de janvier, comme d'habitude, c'est toujours le troisième mardi de chaque mois. Donc là, ça sera le mardi 17 janvier à 18h à la médiathèque de Manosque. Nous accueillerons l'auteur en résidence.
Julien Delmer.
Alors, Julien Delmer a écrit deux romans.
Georgia.
Et Frères des astres. Donc, ce sont deux livres très, très attachants aussi. On vous invite à venir nous rejoindre donc, le mardi 17 janvier à 18h à la médiathèque. Et l'émission qui suivra des lecteurs sous les toits, donc le jeudi 19 janvier, nous peut-être qu'on aura Julien Delmer avec nous.
On espère.
Et sinon, ça encore le reflet. Cette émission sera le reflet de notre comité de lecture. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Nous vous avons donc présenté Des impatientes de Sylvain Patuet,
Beauté parade.
Le bonheur pauvre rengaine, et nous vous avons reparlé du roman de Sylvain Patuet, et que celui qui a soif vienne, un roman de pirate.
Merci et bonne fête à tous. Et merci à notre technicienne, Emmeline.
Merci, Emmeline.
Merci, passez de bonnes fêtes. À bientôt.
À bientôt.